Je vous invite ce matin à ouvrir avec moi nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 28, 1 Corinthiens 12, 28. Et je vais commencer aujourd'hui une série qui sera en deux volets, un message en deux volets. J'ai intitulé « Une vision apostolique de l'Église ». Aujourd'hui, je vais mettre en quelque sorte les bases, l'enseignement, la vision biblique, et puis dans 15 jours, 3 semaines, quand j'y reviendrai, ce sera pour parler d'une manière beaucoup plus pratique qui concerne en quelque sorte l'application de cet enseignement dans notre propre assemblée et dans son développement. 1 Corinthiens 12, 28, vous y êtes, nous lisons « Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Amen. » Alors nous croyons, et je ne doute pas de ça vous concernant, que ce chapitre d'1 Corinthiens 12 est un chapitre inspiré par le Saint-Esprit. Et nous croyons que tout ce qui est écrit dans ce chapitre d'1 Corinthiens 12 est vrai et surtout demeure vrai. Que trouvons-nous au tout début de ce chapitre? Un enseignement sur les dons spirituels. Certains prétendent que les dons spirituels ont cessé avec la disparition des apôtres du Nouveau Testament. Nous croyons que non. La promesse est encore pour nous et Dieu continue de parler à ses églises à travers les dons spirituels que le Saint-Esprit distribue au milieu de nous. Mais pareillement, je crois que ce qui est écrit dans ce verset 28 demeure vrai. Dieu a établi autant des apôtres, des prophètes, des docteurs, etc. Et je crois que ces choses, ces ministères demeurent vrais pour aujourd'hui. Il n'a pas de raison qu'ils aient cessé. C'est un même chapitre, un même enseignement. Pourtant, si l'on compare le fonctionnement de l'Église du Nouveau Testament, de l'Église des actes, des épîtres et l'Église d'aujourd'hui, il est des ministères particuliers que nous avons, d'une manière assez généralisée, cessé de reconnaître ou de laisser fonctionner au milieu de nous, ce sont les apôtres. Quand je parle d'ici d'apôtres, je ne m'arrête pas à considérer un homme avec un ministère et un titre d'apôtre, mais je veux aussi parler de la fonction et de la vision apostolique. Je pourrais même poser cette question, où sont les apôtres? Peut-être même d'une manière plus directe, avez-vous déjà rencontré un apôtre? Et force est de constater que nous ne savons que trop répondre. Pourtant, c'est bien écrit dans la parole, et la parole demeure vraie. Et il résulte de l'absence des apôtres un dommage important pour l'Église, qui se traduit par une coupure, par une rupture avec l'esprit pionnier, conquérant, expansionniste qui animait les apôtres en vue d'étendre l'influence du royaume de Dieu dans le monde. Et nous allons le voir, c'est malheureusement une tendance, que je dirais structurelle, que l'on observe tout au long de l'histoire de l'Église et des Églises. L'Église perd de vue sa mission première d'aller annoncer la bonne nouvelle aux nations et tend à se concentrer de plus en plus sur elle-même, sur ses besoins, sur son propre développement, sur sa pérennisation. Et cette tendance que l'on observe tout au long de l'histoire a conduit au remplacement de la fonction d'apôtre, du ministère d'apôtre, par, selon les traditions ou les temps, des évêques, des anciens ou des pasteurs. Et donc à la substitution, et ça c'est très important, à la substitution d'une vision apostolique par une approche de plus en plus centrée sur l'Église locale. Et ce changement, ce basculement, a considérablement modifié les équilibres de gouvernement de l'Église tels que le Seigneur les avait établis dans sa parole. Et aujourd'hui, nous avons une espèce d'emphase hors de mesure de l'Église locale et de la vision pastorale au détriment d'une vision apostolique, d'une vision dynamique, d'une vision ouverte, de la vision du royaume de Dieu. Mais face aux complexités de notre monde, l'Église d'aujourd'hui doit pouvoir s'appuyer sur, d'une part, un solide ministère pastoral, local. Mais l'Église, les Églises, doivent aussi être tirées en avant par des ministères apostoliques puissamment équipés par le Saint-Esprit. Mais mes frères et sœurs, comprenez-moi, il ne s'agit pas ici de mettre en concurrence de vision, de fonctionnement de l'Église. Les apôtres et les prophètes contre les pasteurs et les docteurs. Car les ministères pastoraux et les ministères apostoliques sont nécessaires, tous deux nécessaires, au développement de l'Église et à l'accroissement du royaume de Dieu dans notre monde. Alors ce matin, nous allons voir ce qu'est la vision, ce qu'est le ministère, ce qu'est le gouvernement des apôtres sur l'Église. Et nous verrons aussi comment les Églises lui ont substitué l'administration pastorale et avec quelles conséquences. Et enfin, et c'est là le point le plus important, nous verrons comment ces deux visions apostoliques et pastorales doivent opérer ensemble comme les deux brins de l'ADN. Avez-vous déjà vu des représentations de l'ADN ? Cette double hélice, hein, l'ADN qui est au cœur même de la vie, avec deux brins qui sont côte à côté, qui soutiennent toute la structure de cet ADN. Tout d'abord, je voudrais parler des apôtres, de leur mission, de leur ministère et de leur vision. Les apôtres dans le Nouveau Testament étaient des envoyés, ce que veut dire apôtre. Et ils étaient appelés à conduire l'Église dans la mission. Ils partaient à la conquête de nouveaux territoires pour le royaume de Dieu, prêchant l'Évangile, implantant et structurant des églises tout au long de leur voyage. Par exemple, l'apôtre Paul a implanté, organisé des églises dans plus de 30 villes majeures de l'Empire romain. Et de même, a-t-il aussi organisé l'Église dans des régions entières comme la Galatie, la Macédoine, dans la région nord de la Grèce, mais aussi dans l'île de Crète. Et leur action était si efficace que les détracteurs de l'Évangile s'exclamaient pour troubler les populations : « Ces gens ont bouleversé le monde !» Acte 17, verset 6. Comme le livre des Actes le montre, tant que les apôtres accomplissaient leur ministère, les églises étaient en constante expansion. Jérusalem a été remplie du message de l'Évangile et ils ont atteint les extrémités de la terre. Mais lorsque les apôtres tardaient à répondre à leur mission, leur ministère apostolique, parce que par moments ils se trouvaient très bien là où ils étaient, les choses ne fonctionnaient pas trop mal dans les églises locales dans lesquelles ils se trouvaient, eh bien ils finissaient par s'enfermer et enfermer les églises dans une vision pastorale locale. Ils n'étaient plus des apôtres envoyés, ils étaient devenus des pasteurs locaux. Jusqu'à ce que le Seigneur permette des persécutions contre les églises. Nous le voyons du temps d'Étienne. Et ce ne sont pas les apôtres qui ont réagi. Mais voilà que se sont levés des hommes comme Philippe, le diacre, l'évangéliste, et qui lui est rentré à son tour dans la vision apostolique en allant à Samarie prêcher l'Évangile, là où des hommes n'avaient jamais entendu parler du Seigneur. Et même des disciples ont quitté Jérusalem, sont allés jusqu'en Chypre, jusqu'à Antioche, prêcher la parole même aux païens, nous est-il dit. Et comme ça n'a pas suffi, le Seigneur a permis une deuxième persécution. Jacques, le frère de Jean, a été décapité par le roi Hérode, qui fit aussi arrêter l'apôtre Pierre, qu'il voulait mettre à mort au jour de Pâques. Mais l'Église s'est mise à prier incessamment, et Dieu a envoyé un ange pour délivrer l'apôtre Pierre. Mais quand celui-ci est sorti de prison, il nous est dit, c'est le verbe exact, que Pierre réfléchit. Il réfléchit sur la situation, et il nous est dit ensuite qu'il partit dans un autre lieu. Certainement considéra-t-il qu'il s'était gravement éloigné de sa mission apostolique et que Dieu lui en faisait prendre conscience d'une manière tout à fait particulière. Soit tu vas dans ton œuvre, soit si tu restes à Jérusalem, les choses risquent de mal finir. Maintenant, si nous devons regarder la parole telle qu'elle se présente à nous, il nous faut admettre qu'il y a eu vraiment une inertie dans l'Église de Jérusalem à un point tel que le Seigneur lui a enlevé son chandelier apostolique et missionnaire et l'a donné à l'église d'Antioche, parce que c'est à Antioche que Jésus a trouvé des hommes prêts à répondre à la vision apostolique, à la mission « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, préparés. » Alors, comme nous le disions tout à l'heure, particulièrement dans notre pays de France, nous n'avons pas l'habitude de rencontrer des apôtres. Ce qui fait que nous n'avons pas forcément idée, compréhension de ce qu'est un ministère d'apôtre. Je vais le résumer d'une manière le plus simple possible, en trois points, pour dire tout d'abord que l'apôtre a un ministère pionnier. Pionnier d'une manière géographique. L'apôtre Paul disait dans Romains 15, 20, « Je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. » Mais pionnier aussi socialement parlant. L'apôtre Pierre, conduit par le Saint-Esprit, est allé prêcher pour la première fois l'évangile à un non-juif, un romain, un païen, Corneille. En cela, nous pouvons dire que les apôtres sont des ouvreurs de portes. Ils ouvrent des portes pour l'évangile, pour le royaume de Dieu. D'ailleurs, si vous faites attention dans l'épître aux Éphésiens, en Colossiens, l'apôtre Paul demande aux églises de prier pour lui, pour que Dieu lui ouvre des portes. Et je me rappelle ce que Jésus avait dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. » Et les apôtres ont les clés pour ouvrir des portes sur terre. Mais je vais vous dire que ces portes, ils ne peuvent les ouvrir que parce que d'abord dans les cieux, Jésus les a ouvertes. Donc, premier point, ministère pionnier. Deuxième point, ministère formateur. L'apôtre Paul écrit dans Romains 1, 13, « J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. » Recueillir quelques fruits. Alors, on peut y voir différents aspects dans ce fruit, mais j'en retiendrai un particulièrement. Quand Paul passait dans une église, son œil spirituel, je vais dire, était ouvert. Et il regardait, il observait les frères qu'il y avait là dans cette assemblée. Et souvent, lorsqu'il partait, il prenait avec lui. Rappelez-vous Timothée. Paul prit avec lui Timothée. Et puis il prit Tite. Et puis il prit d'autres frères, Luc, Éraste, Aristarque et d'autres encore. Et il les emmenait dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre apostolique. L'apôtre est un ministère de formation. Troisième point, les apôtres ont un ministère de gouvernement. Ce sont eux qui sont appelés premièrement à gouverner l'Église. Un premier ministre du XXe siècle, de la IVe République, disait « Gouverner, c'est faire des choix. Gouverner, c'est prendre des orientations stratégiques et en confier l'exécution à une administration. » Ce n'est pas pareil, gouverner, administrer. Gouverner, c'est fixer les grandes lignes. Administrer, c'est mettre en œuvre les décisions que le gouvernement a prises. Eh bien, le gouvernement de l'Église a été confié au ministère dont il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Éphésiens 4, 11 à 12. Et particulièrement ceux qui sont concernés par ce ministère de gouvernement, ce sont les apôtres. Tandis que l'administration des églises locales était la responsabilité des pasteurs, des anciens et des diacres. Ainsi, les apôtres n'administraient pas au quotidien les églises. Ils gouvernaient. Ils donnaient les grandes directions doctrinales, morales, organisationnelles et la vision. Et ensuite, dans les églises locales, pasteurs, anciens et diacres mettaient en œuvre les directions que leur communiquaient les apôtres et géraient les choses au quotidien. Seulement, comme je le mentionnais dans mon introduction, on peut observer une tendance forte qui a traversé l'Église et qui consiste à substituer le gouvernement apostolique de l'Église par une administration presbytérale locale, presbytérale de presbytéros ancien. une administration locale des anciens. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, encourage les frères à aspirer à la charge d'évêque d'anciens. Et cette aspiration n'est pas liée à un appel de Dieu ou à la communication d'un don spécial. Mais c'est plutôt le résultat d'une croissance, d'une maturité, d'une œuvre de la parole et de l'esprit dans la vie d'un homme. Et donc c'est une bonne chose qu'au sein de l'Église, il y ait des frères qui se lèvent avec cette aspiration de servir l'Église comme un ancien. Maintenant, cette aspiration ne fait pas tout. Et l'apôtre Paul dit qu'elle doit être validée par une série de critères spirituels et moraux. Nous le voyons encore dans ces passages, 1 Timothée 3 et versets suivants, Tite chapitre 1er, où l'apôtre Paul dit « il faut, il ne faut pas ». Il y a tout un ensemble de conditions, c'est normal. Et la première de ces conditions, c'est d'être irréprochable. Irréprochable pour un homme ne veut pas dire parfait, sinon qui serait serviteur de Dieu comme ancien au milieu de nous, mais veut dire être, au sens juridique, être inattaquable, inattaquable. Les anciens étaient et sont établis dans l'Église suite à une nomination ou un vote dans l'assemblée locale. Et leur mandat, donc leur autorité, s'exerce au sein de cette Église locale. Les anciens, les diacres, ne sont pas donnés comme les ministères dons de la parole au corps de Christ d'une manière universelle, mais ils servent dans une Église locale. Et quand je parle d'évêques, comprenez-moi bien, je parle d'évêques selon la parole de Dieu et non selon la hiérarchie de l'Église catholique romaine. Que veut dire évêque ? Ça veut dire surveillant. Et la tâche première des évêques, des anciens, des diacres, surtout des anciens, pardon, consistait à superviser et administrer les églises locales. L'apôtre Paul, s'adressant aux anciens de l'église d'Éphèse, dans Actes chapitre 20, verset 28, leur dit ceci: « Votre mission, c'est de garder et paître l'église de Jésus-Christ sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. » Gardez et paître. Ils sont des bergers. Ce sont aussi des administrateurs. Les apôtres gouvernent. Les anciens et les pasteurs locaux administrent, ils s'occupent des questions locales, de la communauté et de ses membres, des questions spirituelles, des questions morales et des questions doctrinales. Et ils sont assistés dans l'exécution pratique de ces tâches par les diacres. Les diacres sont des relais de l'action des anciens, notamment s'occupant de la gestion courante de l'église, du social, des visites, enfin toutes ces choses qui se développent dans une assemblée locale. Ainsi, nous voyons dans la parole de Dieu que l'autorité des anciens s'exerçait donc premièrement dans une église locale. Mais seulement dès les premiers siècles de l'histoire de l'église, avant même que l'église catholique romaine ne soit instituée, leur autorité évolua. Et notamment, elle s'étendit rapidement sur une paroisse, puis sur un diocèse, et même sur une région tout entière qui englobait plusieurs évêchés. Et c'est ainsi que sont apparus les archevêques et aussi les évêques métropolitains, notamment dans le bassin oriental de la Méditerranée. Et leur apparition a amené aussi la disparition du ministère apostolique. Ils se sont substitués dans l'autorité et la gouvernance de l'Église aux apôtres. Et les Églises, très rapidement, n'ont plus été dirigées selon les principes et la vision apostolique, mais selon les principes et l'administration pastorale, presbytérale, locale. Cela a eu pour conséquence directe d'induire un changement dans la vision et la mission de l'Église. Les apôtres insufflaient un esprit de conquête, un esprit d'aventure, un esprit expansionniste à l'Église. Mais avec le développement des évêques et du système presbytéral, on est passé à une vision se concentrant principalement sur la vie de l'Église locale. Sa pérennisation, son administration, son développement, ses besoins. Et c'est ainsi que tout le système romain s'est développé avec les siècles. Venons-en maintenant à la réforme. Il n'y a pas qu'une réforme, il y a plusieurs réformes. Mais toutes les réformes ont eu ce but, au moins une restauration de la doctrine du salut, et nous sommes les héritiers de la réforme sur la question du salut. Mais mis à part quelques cas particuliers, la réforme est loin d'avoir retrouvé l'esprit apostolique de l'Église du Nouveau Testament. En réaction au système centralisé hiérarchique de l'Église de Rome, la réforme a supprimé les évêchés. À part chez les luthériens, chez les anglicans, mais en tout cas chez les calvinistes, il n'y avait plus d'évêchés. Et ils ont remplacé les évêchés par des conseils presbytéraux au niveau d'une assemblée locale. Et dans ces conseils presbytéraux, on retrouvait des anciens et des pasteurs. Ces conseils presbytéraux, au niveau national ou régional, se retrouvaient pour former des synodes. Alors je voudrais dire ce point, tout comme nous sommes les fils, les héritiers de la réforme au niveau de la doctrine du salut, je voudrais vous dire que nous sommes aussi grandement les héritiers de la réforme au niveau de l'organisation de l'Église. Parce que si eux reconnaissaient trois fonctions principales dans l'Église depuis Calvin, c'est-à-dire le pasteur, l'enseignant et l'ancien, nous avons simplement rajouté l'évangéliste. Mais au fond des choses, nous n'avons pas changé fondamentalement la structure du fonctionnement de l'Église telle que les calvinistes nous l'ont légué. Mais autre conséquence de la réforme et de la suppression des évêchés, ça a été l'enclenchement d'un processus de fragmentation des églises. Au sein de l'Église catholique romaine, toutes les églises sont rassemblées dans la hiérarchie. Mais au sein de la mouvance évangélique, on a vu de plus en plus se développer ce qu'on appelle le congrégationalisme. C'est-à-dire que chaque église soit est autonome, soit même devient de plus en plus indépendante. Et si l'Église catholique romaine, nous en avons une lecture assez simple, nous l'avons d'ailleurs vu cette semaine, ils ont élu leur chef, tout le monde s'est réjoui de la base en haut pour les catholiques romains, et c'est une lecture simple. Par contre, pour le monde évangélique, pour le monde pentecôtiste ou charismatique, c'est incompréhensible. Il y a presque autant de dénominations et d'églises indépendantes que d'étoiles dans le ciel. Ce qui veut dire que pour nos autorités, c'est incompréhensible. Ils ne savent pas qui on est. D'ailleurs, par nous-mêmes, nous ne savons pas trop des fois qui nous sommes. Alors, que pensent ceux qui viennent pour la première fois au milieu de nous quand ils entendent tout ce qu'on peut rajouter? Pour moi, le congrégationalisme, c'est-à-dire la notion d'église locale indépendante, c'est une hypertrophie de l'église locale, au détriment du royaume de Dieu et de l'église universelle. Ayant dit ces choses historiques, venons-en aux églises de Pentecôte. Nos églises de Pentecôte ont démarré dans une vision apostolique. Nous avions, dans les premières générations, des frères qui, sans revendiquer le titre d'apôtre, ont fonctionné comme des apôtres. Ils ont communiqué à notre mouvement une vision apostolique. Et ils ont gouverné l'Église, notre mouvement, d'une manière apostolique, ce qui veut dire que parfois ça pouvait amener certaines tensions. Parce que si aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui parle, à l'époque, quand un avait parlé, tout le monde se taisait. Et donc, notre mouvement a connu des apôtres. Je peux au moins en citer deux, ils sont morts maintenant, mais leur souvenir demeure vivant au milieu de nous et leur œuvre aussi. On peut penser au frère Aimé Cizeron, travail merveilleux qu'il a fait, et nos frères et sœurs réunionnais peuvent en témoigner. Et puis nous pouvons penser bien sûr au frère Clément Lecossec et au travail qu'il a fait parmi les gitans et les tziganes, et là aussi la preuve de son apostolat, l'apostolat demeure. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui nous sommes orphelins de ces apôtres. Parce qu'ils sont partis, quelque part ils n'ont pas été remplacés, et leur disparition a laissé place à une administration de plus en plus pastorale et locale des églises et de notre mouvement. Et aujourd'hui, une des faiblesses et un des grands défis de nos assemblées, c'est de retrouver une cohésion. Car de plus en plus se développe un esprit congrégationaliste, où c'est simplement la vision des besoins locaux qui domine. Et on oublie la vision du mouvement et la vision du royaume de Dieu. Alors ce que je fais ce matin, ce n'est absolument pas une critique du ministère des anciens ou des pasteurs, mais il faut comprendre ceci. Les pasteurs, et là je parle du ministère pastoral, vraiment tel qu'on le voit, pas, qu'on le voit dans la Bible et pas du titre de pasteur qu'on donne, mais le ministère pastoral, les pasteurs, les anciens, ce sont des bergers. Ce sont des bergers. Leur vision, c'est le troupeau, sa protection, sa conservation, son épanouissement. Ils doivent gérer les églises en bon père de famille. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc, comprenez ceci. Les pasteurs et les anciens sont fondamentalement des conservateurs. Des conservateurs. C'est leur ministère. C'est leur rôle dans l'Église. Dans l'Église avec un grand E. Il ne s'agit absolument pas, dans mon idée, donc, de s'en débarrasser. Mais ce qui est certain, c'est que cette tendance conservatrice doit être équilibrée par une vision dynamique que les apôtres apportent. Parce que sinon, on se replie de plus en plus sur soi. Et on ne considère que ses propres intérêts. Alors c'est là que je parle de cette vision à deux brins, comme les deux brins de la double hélice de l'ADN, pour dire que nous avons besoin de tous les ministères que Dieu a établis dans son Église. Nous avons besoin des pasteurs, des anciens qui assurent une supervision et une administration pastorale de l'Église locale. Les apôtres l'avaient eux-mêmes enseigné. Mais nous avons besoin aussi des apôtres. Nous avons besoin d'apôtres qui, dans nos églises, vont propulser, nous propulser en avant. Nous avons besoin de ces apôtres qui vont venir extraire du sein de nos assemblées les trésors, les pépites que Dieu y a déposées pour les envoyer plus loin dans son œuvre, recueillir quelques fruits. Et nous avons besoin aussi des apôtres pour gouverner les églises au-delà des contingences locales. Nous développons une espèce de tropisme local. Nous ne voyons le royaume de Dieu que d'après le bout de la lorgnette locale. Mais les apôtres sont là pour étendre notre vision vers le royaume de Dieu. Et le gouvernement des apôtres a pour effet d'assurer l'unité, la cohésion doctrinale, la cohésion morale et surtout d'imprimer à l'Église un dynamisme. Alors je vais vous le dire clairement, pour cela nous n'avons pas besoin de super apôtres comme Paul les appelait. Vous savez, de ce genre d'apôtres qui planent au-dessus des églises à force de voler dans des jets privés et de porter au poignet des Rolex, ce n'est pas de ce genre d'hommes dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'apôtres qui sont enracinés dans la vie de l'église locale. Des hommes qui, comme l'apôtre Paul, peuvent dire « Mais quand quelqu'un tombe, je brûle. Chaque jour, je suis chargé, assailli par tous les défis de l'église, les responsabilités de l'église. » Depuis longtemps, les commentateurs de la Bible ont mis en évidence qu'il y a deux voies donc de gouvernance de l'Église. Il y a la voie locale, pastorale, protectionniste, conservatrice. Et puis il y a l'autre brin, la vision dynamique, expansionniste, apostolique. Et dans la parole de Dieu, ces deux visions ne sont pas incompatibles entre elles, mais elles forment en quelque sorte cette hélice de l'ADN. Elles sont nécessaires, chacune au développement de l'Église, chacune ayant sa fonction, sa mission, sa vision. Le souci est que trop souvent, l'Église a perdu l'un de ces deux brins nécessaires, le brin apostolique. Et cela a entraîné de nombreux déséquilibres, de graves déséquilibres. Et nous le voyons aujourd'hui, les Églises deviennent trop locales, deviennent trop centrées sur elles-mêmes, sur leurs besoins, et elles n'ont plus la vision du royaume de Dieu. Alors il est essentiel que nous retrouvions la fonction, la vision et pourquoi pas même le ministère des apôtres au milieu de nous, afin de corriger par la puissance du Saint-Esprit ce déséquilibre et de reconnecter les églises locales avec la vision du royaume de Dieu. Je vais vous dire, dans nos églises, beaucoup de pasteurs et d'anciens en sont conscients, mais la manière dont on essaie de régler les choses aujourd'hui, notre mouvement, à mon sens, n'est pas la bonne. Parce qu'on n'essaye pas de corriger par la puissance du Saint-Esprit, mais on essaye de corriger par des règlements, des statuts. Et s'il était un temps où la réforme a été associée à Calvin, à Luther et à tout ce qu'ils nous ont apporté concernant la parole de Dieu sur la scriptura, aujourd'hui, les seules réformes qu'on arrive à faire, ce sont des réformes juridiques, administratives, et c'est bien dommage. Ce n'est pas par les textes de loi, de réglementation, que nous allons rénover notre mouvement, mais c'est en libérant les ministères que Dieu a établis dans son Église. En conclusion, les ministères pastoraux et apostoliques sont des forces complémentaires, mais ce sont aussi des forces en opposition, même si elles sont complémentaires, ce qui entraîne parfois des tensions. Alors faisons un peu de physique, rappelons-nous de quelques principes que nous avons vus au collège ou au lycée. Les apôtres sont comme une force centrifuge. Qu'est-ce qu'une force centrifuge ? C'est une force qui pousse vers l'extérieur. Les pasteurs et les anciens sont une force centripète. Il ramène vers l'intérieur. Alors forcément, quand les deux se rencontrent, ça peut amener une tension. Mais il n'empêche que les deux sont nécessaires. Si je dois caractériser le ministère, ces deux ministères par un verbe ou deux verbes, je dirais que les pasteurs et les anciens, force centripète, voient leur ministère à travers le verbe « garder ». Quand Jésus s'adresse à Pierre, qui lui dit « paie mon église », il emploie un verbe « bosco ». Alors, si vous connaissez un peu le bassin méditerranéen, on emploie encore ce mot « bosco ». C'était pour parler des bergers, les bosco, les gardiens. Ils gardent. Le berger est un gardien. Et il cherche à ramener les choses vers l'église, à ramener les choses vers l'intérieur. Maintenant, si je dois caractériser le ministère des apôtres par un verbe, je choisirai le verbe « envoyer ». L'apôtre est celui qui envoie. Il envoie des hommes, des femmes, des ministères pour le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que pour l'Église, l'apôtre signifie d'abord perdre. Quand Paul passait dans une église, l'assemblée perdait des jeunes hommes. Elle perdait des frères sur qui elle comptait. Un jeune prédicateur, un jeune évangéliste. Un jeune frère qui était là, serviable dans l'assemblée, qui grandissait au milieu de nous. Paul l'a pris, il nous a dépouillés. Et il n'y a pas que ça. Quand un apôtre passe dans une église, comme l'apôtre Paul, l'église perd de son confort. L'église perd de ses ressources parce que voilà que maintenant il va falloir soutenir la vision de l'apôtre. Et nous savons que lorsque nous perdons dans le royaume de Dieu, c'est pour mieux retrouver. Et si à travers le ministère des apôtres et des églises, garder un peu moins et commencer à perdre, c'était pour retrouver au centuple dans les cieux et même sur la terre, dans la croissance du royaume de Dieu. Quand une église locale, ou quand un mouvement d'église perdent la vision apostolique, ils perdent de leur capacité à influencer leur communauté. Et ils deviennent des sédentaires. Combien d'églises dans notre mouvement sont devenues des églises sédentaires ? La seule chose qu'elles savent dire, c'est garder, préserver. C'est mon pâturage. Parce qu'elles deviennent sédentaires, elles évitent d'exercer ensuite la foi audacieuse. Elles évitent de prendre des décisions nouvelles. Et elles sont beaucoup plus préoccupées par le maintien de ce qu'elles ont. Elles conservent. Mes frères et sœurs, il est temps que les assemblées locales embrassent le ministère et la fonction apostolique. Et à défaut d'avoir des apôtres, en tout cas de s'engager dans une vision apostolique. Les pasteurs, les anciens des églises locales doivent reconnaître qu'ils ont besoin de la participation, de l'inspiration, de la puissance des ministères des apôtres. Afin de trouver un équilibre et une dynamique pour la croissance du royaume de Dieu à partir de leur église locale. Si l'Église demeure ainsi, qu'adviendra-t-il de cette puissance que le Seigneur nous a donnée ? Un revêtement de puissance, un revêtement de dynamis, dit Jésus en grec, en quelque sorte. Dynamique. Quand on est sédentaire, plus besoin de dynamique. Mais si l'Église ne s'engage pas à restaurer la fonction du ministère d'apôtre, quelques-uns des plus grands leaders chrétiens de notre génération n'émergeront pas ou ne pousseront même pas. Ou alors seront cantonnés encore une fois dans un ministère pastoral. Et tout le long de leur ministère, pendant des dizaines d'années, ils vont se ronger les ongles, espérant la retraite pour enfin accomplir leur ministère. Mes frères et sœurs, nous avons perdu tout au long de ces dizaines d'années des ministères et des ministères d'apôtres. Dois-je rajouter aussi celui de prophète ? Nous sommes très inconsistants à vouloir dire que 1 Corinthiens 12, dans les premiers versets sur les dons spirituels, n'a pas cessé, mais de trouver tout à fait logique que les ministères d'apôtres qui ont été établis premièrement dans l'Église et les ministères de prophètes qui ont été établis secondement dans l'Église n'aient plus place au milieu de nous. Mais comme ils n'ont plus place, ils laissent un vide. On essaye de remplacer ça par quelques règlements, quelques statuts juridiques, mais la lettre est morte. Seul l'Esprit vivifie. Mais il est certain que si les Églises s'engagent à restaurer les dons de Dieu, tous les dons de Dieu, Dieu bénira encore et Dieu donnera. Comment pourrions-nous imaginer vivre sans les dons de prophétie ? Sans les dons spirituels qui, tant de fois, ont exhorté nos cœurs, ont consolé, ont édifié, ont révélé certaines choses. Nous en avons besoin. Et nous pourrions dire, nous n'avons pas besoin des apôtres et des prophètes. Peut-être nous en rendons même pas compte, c'est ce qui est le plus grave. Parce que nous nous sommes habitués à vivre sans. À vivre sans. Mais Dieu est capable de nous donner tellement plus. Je crois que si l'Église s'engage à restaurer une vision apostolique, Dieu suscitera du sein de nos assemblées des apôtres et des prophètes. Maintenant, ce que je crois, c'est que la réforme ne viendra pas d'en haut, je parle au niveau des hommes, mais elle viendra de l'Église locale. Car c'est au sein d'une Église locale à Antioche que Dieu a dit par le Saint-Esprit, « Mettez-moi à part ces deux hommes. » Que Dieu puisse encore œuvrer et que nous puissions accepter de perdre afin de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. C'était ici le premier volet de ce message où je posais quelques enseignements, quelques fondements bibliques et dans 3 semaines après Pâques, j'aborderai le deuxième volet qui sera beaucoup plus pratique et qui va concerner l'avenir de notre Église. Je porte en mon cœur une vision, un projet. Et l'année dernière, je disais dans un message de vision que nous devions achever, et pour moi, une partie de mon ministère est achevée. Oh, il y a encore des travaux à faire, je sais, mais je ne suis pas très doué pour ça, je n'aime pas ça, c'est très secondaire. Mais l'essence, ce que j'avais sur le cœur en premier est achevé. Mais je vous ai dit aussi que Dieu est capable de nous faire entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Bien. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu as établi dans l'Église, qui pourrait dire que nous n'en avons pas besoin ? Et Seigneur, tout comme la manifestation des dons spirituels n'a pas cessé avec la disparition de la première génération des apôtres, nous croyons aussi que les ministères apostoliques et prophétiques n'ont pas disparu des églises. Mais je dirais en cela, nous sommes pécheurs. Nous avons péché devant toi parce qu'alors que nous savions ce qui était bien, nous ne l'avons pas fait. Et Seigneur, nous sommes restés sur une vision locale, trop locale, sur une vision pastorale, parfois trop pastorale, de l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, les apôtres nous manquent, les prophètes nous manquent. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'être gouvernés par des hommes pleins du Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, d'être dirigés par ces hommes pour aller plus loin dans la vision de l'Église. Nous ne voulons pas nous refermer, nous enfermer sur une vision simplement de l'Église locale. Nous ne voulons pas garder pour garder. Nous voulons veiller afin d'envoyer. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses commencer à parler à nos cœurs et préparer quelque chose de nouveau pour notre assemblée et pour les églises de France. Je prie, Seigneur, pour qu'une génération d'apôtres et de prophètes se lève encore du sein de nos assemblées. Et puisse ainsi, mon Dieu, alors que les temps sont si courts, racheter le temps que nous avons perdu. Je te prie dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen.